Et vous le savez certainement, Aidan Alexander, l'otage israélo-américain, a été libéré hier en fin de journée dans un geste envers Donald Trump. On en parle ce matin avec notre invité. Il ne s'agit de personne d'autre que de Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements militaires de Tzahal. Lise, je vous laisse analyser tout cela avec lui.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas officiellement de contrepartie à la libération de cet otage. Mais bien entendu, on sait en coulisses, Raphaël, que le Qatar compte sur Donald Trump désormais après ce cadeau, entre guillemets, pour faire pression sur Israël pour que la guerre à Gaza cesse plus vite que prévu.
Oui, en quoi il ne se trompe pas, puisque la pression a été exercée hier. D'abord par M. Witkoff qui s'est entretenu avec Benjamin Netanyahu, mais aussi par téléphone, donc une conversation entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu, qui a eu pour résultat immédiat l'envoi d'une délégation israélienne au Qatar pour reprendre les négociations sur la libération des otages, avec une instruction formelle des Américains de cesser pour l'instant la menace d'une offensive terrestre sur Gaza plus intense que celle qui a lieu maintenant, et de donner une dernière chance, en tous les cas, à ce qu'on appelle la proposition Witkoff de libérer encore quelques otages contre un cessez-le-feu du moins temporaire d'une quarantaine de jours, sinon un arrêt total des combats, auquel cas il y aurait un échange de tous les otages qui restent. Mais là, les Israéliens ne sont pas d'accord, sauf si le Hamas accepte de désarmer, de déposer les armes, ce qui n'est certainement pas le cas. On est donc peut-être ici à l'occasion de la dernière chance avant une offensive massive israélienne contre Gaza.
Justement, ce qui était peut-être choquant, c'était pour une fois cette séparation, entre guillemets, c'est-à-dire que les responsables israéliens ont été écartés des négociations et ils ont été informés de la libération d'Aidan Alexander qu'une fois que l'accord avait déjà été conclu. Mais on voit bien en même temps qu'ils se sont beaucoup parlé hier. Est-ce que tout de même, Washington et Jérusalem sont toujours sur la même longueur d'onde, Raphaël ?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des divergences. Ça ne veut pas dire qu'ils soient fâchés. Il y a juste des différences d'opinion sur la stratégie à suivre. Il est incorrect d'avoir entamé ces négociations sans coordonner avec les Israéliens. Il y a eu d'autres États, comme même la France ou la Russie, qui ont tenté d'intervenir auprès du Hamas pour libérer les otages qui ont leur nationalité. Mais c'était toujours en informant ou en coordonnant avec les Israéliens, qui détiennent d'ailleurs pas mal d'atouts pour faire libérer des otages, dont par exemple des prisonniers palestiniens qu'on peut échanger. Avoir doublé ou être passé derrière le dos de Jérusalem, c'est pas correct diplomatiquement, politiquement. C'est néfaste pour la suite des négociations concernant les autres otages qui n'ont pas la chance d'avoir une nationalité double ou américaine. Donc ça ne va pas, mais il y a ici peut-être un problème de manque de confiance de la part des Américains. N'oublions pas que les négociations étaient absolument au point mort et qu'on est aujourd'hui en train d'essayer de les faire redémarrer, et là les Israéliens étaient en partie responsables de ce coinçage des négociations.
Alors justement, hier, le kibboutz Nir Oz a publié un communiqué pour dire qu'ils avaient l'impression que leur vie valait moins que celle d'un otage qui possède un passeport américain, même s'ils se réjouissaient évidemment de la libération d'Aidan Alexander. Et la conclusion, c'était de se demander si on attendait en fait la fin de la visite de Donald Trump dans la région pour que les opérations israéliennes reprennent à Gaza. Ce serait ça le timing, Raphaël Jérusalemi?
Oui, c'est une possibilité. De toute façon, Benjamin Netanyahu a déclaré que les négociations se feraient sous la puissance du feu, mais il a déclaré ça à son premier ministre de sécurité pour apaiser une certaine branche de son gouvernement qui est plus agressive. Je ne pense pas qu'il y ait ici un timing spécifique. On sait qu'on allait et on a convoqué des réservistes en vue de cette offensive, et que pour l'instant, donc, elle est reportée, mais juste de quelques jours, à mon avis. On laisse, donc, comme je l'ai dit, cette dernière chance. Une délégation israélienne se trouve actuellement au Qatar. On saura très très vite si le Hamas est sérieux ou si le Hamas, une fois de plus, joue la montre et nous mène en bourrique. À mon avis, ça prendra pas très longtemps pour s'en rendre compte. Et à ce moment-là, il n'y aura aucune raison pour continuer à essayer de pour parler s'il y a cette obstination, une fois de plus, du Hamas, à moins que la même pression qui est exercée par Washington sur Jérusalem soit exercée aussi sur le Hamas à travers le Qatar, que Washington d'ailleurs a accusé de mettre aussi des bâtons dans les roues aux négociations par rapport à l'efficacité égyptienne. On voit bien qu'il y a ici une inefficacité du Qatar. En tous les cas, Trump fait la fête sur les échecs de la diplomatie israélienne et qatari. Lui, il arrive avec soi-disant ce côté hollywoodien de sa personne, en disant que c'est lui qui a réussi ce que les autres n'arrivaient pas à faire, etc., etc. On est loin d'une véritable solution au problème cuisant et tragique des otages.
Est-ce que, pour finir, en fait, Jérusalem, le fait que Donald Trump ne vienne pas en Israël, c'est juste une signification symbolique ou c'est la preuve que le président américain attend d'Israël, comme de tous les autres pays avec lesquels il négocie, un retour sur investissement plus important pour lui?
Je crois que le retour sur investissement par rapport à Israël, il l'a déjà. Lorsqu'il va en Arabie Saoudite, au Qatar, et même flirte avec les pires des pires. Hein. En ce moment, en fin de compte, Donald Trump flirte avec les Iraniens, les Turcs, le nouveau dirigeant syrien. Donc, il flirte avec les terroristes en échange de certains avantages économiques ou autres. C'est pas du tout le cas donc pour Israël. Donc, il y a effectivement, dans ce voyage-là, est un voyage complètement séparé. C'est pas un voyage véritablement pour résoudre les conflits qui ont lieu au Proche-Orient, c'est un voyage de business. Et dans ce voyage de business, il n'a aucune nécessité de se rendre en Israël, où le business marche extrêmement bien entre les États-Unis et Israël, où il y a un échange mutuel. Aujourd'hui, on sait que les États-Unis dépendent du high-tech israélien pour tout ce qui est les ordinateurs quantiques, pour tout ce qui est l'intelligence artificielle. Ils reçoivent des Israéliens énormément d'appui. Évidemment, en retour, l'économie israélienne et la high-tech israélienne reçoivent aussi. Et dans l'ensemble, donc, ce que Israël a offert aux États-Unis a été offert. Ce que les Américains offrent à Israël a été offert. Il n'y a pas véritablement besoin d'une réunion au sommet à ce sujet.
Ma dernière question à Raphaël. Le New York Times disait que Donald Trump avait été exaspéré par le coût astronomique des opérations militaires contre les Houthis et que comme il trouvait que ça coûtait trop cher et que le bilan était décevant, c'est pour ça qu'ils ont fait donc un accord avec les terroristes yéménites. Est-ce que c'est embêtant pour Israël ou est-ce que en cas quand même de catastrophe, il reprendrait?
D'après Donald Trump également, l'objectif a été atteint, c'est-à-dire lui, il voulait que les Houthis acceptent de ne plus tirer sur les navires américains en mer Rouge. Or, les Houthis auraient apparemment accepté, donc il y aurait une sorte de cessez-le-feu entre les deux nations, la guerre peut reprendre à tout moment, évidemment. Pour les Israéliens, c'est embêtant, évidemment, c'était quand même une sorte de soulagement d'avoir au moins ce théâtre d'opération-là pris en charge par quelqu'un d'autre qu'Israël. Israël se retrouve aujourd'hui seul face à tous les problèmes du Proche-Orient, à tous les conflits qui s'y déroulent, à gérer ce qui se passe en Syrie, à essayer de rétablir plus ou moins un équilibre au Liban, et j'en passe, même à résoudre les problèmes de Gaza, en fin de compte. Israël se retrouve seul à gérer la région la plus compliquée du monde face à une passivité. Et c'est pire qu'une passivité, parce que lorsqu'on prend certains pays comme en Europe, même des critiques, alors qu'ils ne font rien, à commencer par les Belges, puisque nous sommes sur Radio Judaïka, qui ne font rien du tout pour résoudre le problème au Proche-Orient, mais qui ont plus le culot de critiquer Israël. Donc c'est un peu regrettable que nous nous retrouvions seuls, et qu'une fois de plus, ce sont les soldats et les soldats d'Israël qui perdent leur vie ou leur santé à défendre le monde entier contre la vague d'islamisme et qui menace toute la planète.
Merci beaucoup, Raphaël Jérusalmi, pour toutes ces précisions. Ancien officier des renseignements militaires de Tsahal et auteur de nombreux livres, dont Infiltration. Bonne journée à vous, à très vite.